Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour cette nuit de recherche 2025 à la BFM dans ce magnifique cadre qui nous permet bien d'être dans le noir, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, et de pouvoir bien justement vous faire partager cette expérience certes autour de la recherche, mais aussi donc mettre à l'affût notre ouïe, surtout qu'il est très important dans le prochain sujet qui sera abordé, puisque l'audition, l'ouïe, l'attention en tous les cas portée envers les petits oiseaux que vous écoutez, va nous dire beaucoup de choses autour du droit environnemental notamment. Ouais, je t'en prie.
Ouais. Bonsoir à tous. Je suis Émilie Chevalier, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Limoges. Je vais vous parler des recherches que l'on fait avec une petite équipe de chercheurs de Limoges en partenariat avec des collègues argentins de l'Université de Santa Fe, l'Université du Littoral, qui est une recherche sur la mobilisation des sens au service de la protection de l'environnement. Donc, en fait, quand on est chercheur, voilà, en droit de l'environnement, alors déjà, chercheur en droit, souvent, ça interpelle, parce qu'en effet, nous, on n'a pas de blouse. On dit souvent, voilà, on ne sert à rien parce qu'on ne découvre pas le vaccin contre le cancer. Alors j'ai envie de dire, en fait, on ne sert pas à rien quand même parce qu'en fait, contre le cancer, nous, en droit de l'environnement, on a le principe de précaution et qui, s'il était bien utilisé, peut-être pourrait éviter certains cancers également. Donc on a une utilité. Mais c'est toujours compliqué de percevoir ce qu'est la recherche en droit. On nous voit souvent comme lisant des bouquins, c'est beaucoup ça le droit, affrontant des règles arides, rigoureuses, des règles aussi qui paraissent, qui sont là que pour la sanction. Et donc c'est spécialement vrai en droit de l'environnement. Je pense que vous avez entendu, enfin beaucoup d'entre vous ont entendu les critiques qu'on porte de manière récurrente au droit de l'environnement comme quelque chose qui bloquerait l'économie, quelque chose qui empêcherait le développement agricole par exemple. Et donc on le stigmatise très souvent comme quelque chose, voilà, avec lequel on ne peut pas transiger et finalement qui s'impose à nous. Mais pourtant, on ne peut que constater la multiplication des atteintes à l'environnement. Et souvent, quand on dit aussi atteinte à l'environnement, c'est atteinte à notre santé, quoi, à la santé des hommes, des femmes, évidemment, à la santé des animaux. Et donc, c'est une dégradation de notre milieu de vie. Donc, le droit de l'environnement, il sert à ça, à réfléchir à des mécanismes de droit, de règles, à des mécanismes juridiques pour renforcer la protection de l'environnement. Et alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de règles en droit de l'environnement. On a l'impression que plus il y a de règles, plus on constate les atteintes à l'environnement. Et donc, le gros souci aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'effectivité du droit de l'environnement. Donc, c'est-à-dire la bonne application, le bon respect du droit de l'environnement. Parce que souvent, quand on a un problème en France, le réflexe, c'est de dire « Ah, on va faire une nouvelle loi, quoi ». Et alors là, nous, on est là en tant que juriste en droit de l'environnement. Non, c'est bon, en fait. Il y en a bien, bien assez comme ça. Et en effet, il y a une petite tension aujourd'hui parmi la population sur cette question-là. Non, il y en a bien assez. Juste, OK, on n'a qu'à mettre les moyens, en fait, pour que ce droit soit correctement mis en œuvre. Et donc, on est en train de réfléchir à ça, nous, en tant que chercheurs, à comment améliorer la mise en œuvre de ce droit de l'environnement. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas mobiliser les sens ? Les sens, LES, plus loin, SENS, et pas l'essence, parce que je ne suis pas sponsorisée par Total ce soir, donc tout va bien. Nous essaierons de faire attention avec mon collègue Christophe Dago à l'université d'être, intègre et éthique sur ces questions-là. Donc l'essence au service de la protection du droit de l'environnement, et de se dire, OK, le droit, ça paraît super aride, quoi. On le lit, on ne comprend rien, la règle, elle est complètement opaque. Et donc comment est-ce qu'on fait, en fait, pour que les décideurs puissent mieux l'appliquer. Parce qu'apparemment, quand ils la lisent, ça ne marche pas, ou ça ne marche pas suffisamment bien. L'idée, c'est de mobiliser leur sens. Alors, quand on parle de leur sens, on peut penser à la vue, okay, qu'ils vont mobiliser dans le cadre de la lecture des textes. Pas de difficulté particulière, ça, je dirais que c'est assez classique. Mais nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne mobiliserait pas l'ouïe des décideurs ? On peut aussi mobiliser l'odorat, ça sera l'objet d'une autre recherche. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la mobilisation de l'ouïe. Alors pourquoi c'est intéressant en droit ? Parce qu'en fait, en droit, on ne s'intéresse pas au son. Ce n'est pas le son qui nous intéresse, c'est le bruit, souvent en droit. Et donc, il y a un certain nombre de bruits qui peuvent nous être familiers. Et justement, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on les considère comme des sons ou comme des bruits ? Et donc, après la diffusion, justement, de ces différents éléments, on pourra réfléchir à comment on distingue les deux. Alors, son ou bruit ? On a entendu différents sons. J'imagine que vous avez eu des perceptions visuelles en fait à l'écoute de ces sons et qui vous ont évoqué des choses sans doute différentes. Et on comprend bien que selon l'habitude que l'on a de rencontrer ces différents sons, ces sons, vous les assimilez à des bruits ou pas. Et en fait, clairement, la différence, on la sent bien, quoi. Le son, ça serait quelque chose de réconfortant, en tout cas d'agréable, qu'on a envie justement d'écouter, qu'on a envie de suivre, alors que le bruit serait quelque chose d'agressant, quoi, en fait, quelque chose de dérangeant. Alors, sans doute, alors peut-être tout le monde ne sera pas d'accord et certains ont besoin de beaucoup de bruit pour se sentir apaisé, mais on pourrait estimer que la sirène de police, la circulation routière en pleine ville, c'est quelque chose qui est considéré comme dérangeant, comme du bruit. Au contraire, il y avait ensuite les sons, alors là, qui est peut-être, on voit toute la subjectivité de l'appréciation, les sons des enfants, en fait, qui crient. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là très récemment, où, en fait, une école a dû, réduire fortement le temps de récréation des enfants parce que ça dérangeait en fait les voisins. Donc on voit bien ici que les sons étaient quelque chose de positif entre les enfants parce que ça leur permet d'interagir, d'exprimer des sentiments, de faire corps finalement ou de faire groupe. Et de l'autre côté, vous avez une autre subjectivité qui apparaît. Et donc là, ça s'appelle du bruit. Et donc à la fin, j'ai attendu quelques secondes pour reprendre la parole pour montrer en fait qu'il y a le silence aussi. Il y a l'absence de bruit, l'absence de son. Et ce qui est très intéressant dans notre société, c'est qu'en fait, c'est souvent le silence qui est considéré comme quelque chose de très positif, quelque chose qui est considéré comme, voilà, comme étant très recherché, comme étant une source d'apaisement. Donc en fait, on aurait comme ça construit une espèce de crainte ou en tout cas de rejet finalement du son en l'assimilant au bruit. Et donc ça, c'est très intéressant parce que notre conception qui vient de la société, elle transparaît sur le droit. Parce qu'en fait, le droit, il ne vient pas de nulle part. Hein. Le droit, les règles de droit, c'est juste la traduction d'envie sociale, d'ambition sociale à un moment donné. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord décortiquer dans l'autre sens, à se dire, quelle est notre idée du son, pour comprendre ensuite pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle règle de droit. Et donc, on a une prédominance des règles de droit qui portent sur la répression du bruit. L'idée aussi, c'est évidemment en se fondant sur des études scientifiques, médicales, qui montrent que le bruit peut avoir des incidences en termes de maladies, hausse des maladies cardiovasculaires, problèmes d'endormissement, problèmes de tension et autres, notamment évidemment dans les milieux urbains. Eh bien, le droit est venu s'emparer de ces questions-là pour protéger l'individu et donc, en gros, essayer de construire autour de lui une espèce de cocon qui serait de plus en plus silencieux. Toutefois, évidemment, on va pouvoir se poser la question de savoir si finalement ce cocon ne nous coupe pas d'une certaine forme de réalité, d'une certaine forme d'interaction possible avec ce qui nous entoure, que ce soit les autres personnes ou que ce soit évidemment les éléments de la nature. Mais donc, en droit, nous, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est le bruit, et donc la répression du bruit. Et donc là, je ne vais pas aller dans le détail ici, on pourra y revenir si vous le souhaitez dans le temps des questions. Vous avez des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit clairement que le bruit était une nuisance sonore qui portait atteinte au droit au respect de la vie privée. Et donc, par exemple, des personnes qui étaient à côté d'une discothèque ont pu obtenir une indemnisation du fait des nuisances qu'elles subissaient. Alors, il y a une petite différence en droit. Souvent, c'est de savoir si le bruit est régulier, si le bruit est continu, si le bruit était déjà là avant que les personnes arrivent, ou si c'est un nouveau bruit. Et là, vous avez différentes approches qui peuvent exister. Toujours sur cette réflexion sur la subjectivité, on peut penser à deux autres sons qui nous ont occupés dans des affaires devant le juge, où on a porté ces affaires-là devant le juge et les animaux ont été amenés en justice. Donc là, on va entendre les deux sons suivants et après, je vous parlerai des affaires qui sont liées. Ok, vous avez reconnu le premier ? Oui.
Oui.
Et coq même. Et un coq qui a un nom. C'est Maurice, le coq de l'île d'Oléron. Maurice, le coq de l'île d'Oléron. Alors bon, c'est peut-être pas vraiment, vraiment lui, c'est peut-être son cousin lointain, mais en tout cas, ça faisait référence à Maurice, le coq de l'île d'Oléron, qui, tous les matins, chante. Et donc, il y a des gens qui viennent à l'île d'Oléron pour leurs vacances et qui estimaient que ça les empêchait quand même de faire des grasses mats. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont poursuivi le couple qui possédait Maurice en justice pour une trouble de voisinage. C'est ça la raison juridique qu'on peut invoquer, trouble de voisinage. Et donc, ils ont demandé une indemnisation et surtout, ils ont demandé la mort du coq Maurice, ou en tout cas son déplacement. Mais bon, les propriétaires disaient, voilà, nous on y est très attachés, c'est vraiment comme un animal de compagnie, eh bien on ne compte pas s'en séparer. Alors ils ont plaidé, on a défendu leur cause, enfin des avocats ont défendu leur cause, et vous savez, c'est aussi dans tout un courant aussi qui considère quand même l'animal, alors pas en tant que personne, pas en tant que personne humaine évidemment, mais qui lui considère quand même une place plus importante. Et là les juges ont dit, non, eh bien écoutez, Maurice, il était déjà là finalement, avant les vacanciers, et les vacanciers doivent supporter Maurice, parce qu'en plus, Maurice, par chance pour les vacanciers, ne chante pas toute la journée, quoi. Maurice, ok, allez, c'est 2 minutes à 5 heures, ils ont peut-être quelques difficultés pour s'endormir, ce qu'on peut entendre, eh bien, tant pis, il va falloir qu'ils s'adaptent à Maurice. Et ça, c'était intéressant. Par contre, le sort du deuxième son, donc les grenouilles, en fait, autour d'une mare, étaient un peu plus, regrettables, on va dire, parce qu'en fait, c'est une affaire donc, qui a là aussi concerné des voisins, donc je crois que c'était dans la Vienne ou en Charente, où là, des voisins se sont plaints du décroissement des grenouilles qui étaient autour d'une mare et ont demandé l'enfouissement de la mare. Et ça, si vous voulez, cette demande-là, alors on comprend bien l'idée, c'est qu'ils étaient dérangés là aussi par les croissements intempestifs ou même continus, en fait, de ces grenouilles. Mais demander l'enfouissement d'une mare aujourd'hui, en 2025, c'est quelque chose de dramatique, en fait, du point de vue environnemental. Parce que une chose qui est importante pour aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, c'est la préservation des zones humides, en fait. Et donc, si on se met à boucher les zones humides, on s'y met bien assez dans tout un tas d'hypothèses. Là, pour le confort, en fait, pour un confort de voisinage, là, ça paraît complètement disproportionné. De même, si vous enfouissez une mare, si vous la bouchez, eh bien, ça veut dire que les espèces doivent se déplacer, au mieux. On veut dire que ce n'est pas garantie qu'elles arrivent vivantes à un autre endroit. Et puis là, pareil, vous touchez toute la flore, toute la faune qui, évidemment, irrigue cette mare. Et ces arguments-là n'ont pas porté leurs fruits. Et le juge a en effet obligé les propriétaires de la mare à boucher la mare, en fait. Donc là, vous voyez différentes approches à l'égard du bruit, alors que finalement, là, ou du son, et que là, les sons, finalement, sont naturels et qu'ils posent la question de la coexistence, en fait, coexistence de l'homme avec la nature, de l'homme avec les espèces animales, mais aussi, ben, on le sait bien, des hommes entre eux. Et on sait aussi qu'il y a un conflit souvent entre ruraux et urbains. Donc il y a une dimension sociétale encore plus importante sur ces questions-là. Alors on a réagi, en fait, le législateur a réagi face à cette problématique-là et en 2021 a consacré le concept de patrimoine sensoriel. Et aujourd'hui, on estime que les sons qui sont liés à la biodiversité, aux espaces, aux espèces, eh bien, doivent être protégés et sont un patrimoine commun de la nation. Alors là, on s'est dit, bah super, c'est une nouvelle idée pour protéger mieux l'environnement et pour justement demander l'effectivité du droit de l'environnement. Et donc notre idée, en fait, dans notre recherche, c'est de se dire, bah tiens, si finalement, quand un décideur public devait statuer sur un projet, est-ce qu'on va construire une ligne de LGV ? Est-ce qu'on va construire un projet autoroutier ? Je caricature un peu, mais c'est ces projets-là qui ont un fort impact sur l'environnement, mais ça peut être aussi un projet de déviation d'un kilomètre pour gagner une minute trente sur un trajet, quoi. Vous voyez, ça, c'est ce genre d'hypothèse-là aussi qui existe largement. Comment le décideur doit faire ? Il doit évaluer l'impact, en fait, potentiel de ce projet sur l'environnement. Et donc, ce qui est fait le plus souvent, c'est des relevés d'espèces. Donc, on compte, en fait, le nombre d'espèces et on répertorie le type d'espèces qui est présent. On voit si ce sont des espèces protégées ou pas. Et à ce moment-là, ben, il y a une mise en balance, en tout cas, qui est faite. Bon, souvent, au final, on dit qu'il y a un intérêt économique, un intérêt de la sécurité routière, et bam, on autorise le projet. Donc, vous imperméabilisez des kilomètres, en fait, de sol où il y avait quand même une biodiversité, je le répète, pour gagner une minute de trajet et peut-être même pas parfois. Je caricature exprès, mais c'est pour vous dire aussi que tout un tas de projets d'infrastructures aujourd'hui ne sont plus tellement sauts 2025, quoi, en fait. Là, c'est un peu peut-être une vision plus rétrograde ou en tout cas plus ancienne. Et donc notre idée, nous, en tant que chercheurs, c'est de faire des collectes de sons, de travailler avec des écologues sonores pour se demander quel est le rapport, en fait, entre la protection d'un espace ou la protection d'une espèce et le son qui va en ressortir. Et on se dit, en fait, que si on arrive devant le décideur, au lieu d'avoir un dossier, enfin, ou en plus, finalement, du dossier qui va dire, voilà, il y a tant de chiroptères, et il y a tant de salamandres, et il y a tant de grenouilles qui sont là, et de batraciens, eh bien, on va lui donner le son. Et dire, ben voilà, si là, vous faites un projet, par exemple, une infrastructure routière, ben vous aurez un des premiers sons qu'on a entendus qui était les routes, hein, finalement, la voiture qui passe de manière continue. Donc, au-delà, évidemment, des nuisances pour le voisinage, il faut se dire qu'il y a des nuisances réelles pour les espèces, en fait. Qu'une espèce, elle ne va pas nidifier dans les mêmes conditions si elle est exposée à une nuisance sonore de ce type-là. Et on s'est dit, ben voilà, si on lui montre le son et on lui montre la différence, ben peut-être que ça va l'aider. Alors après, en droit, ça pose plein de questions sur ben, qui prend le son. Quelle est la méthodologie ? Parce que ben, forcément, on l'a compris, il y a une forme de subjectivité. Et donc ça pourrait atteindre la légitimité du processus de décision. Et donc c'est pour cette raison, en fait, qu'on réfléchit à des protocoles, en fait, pour accompagner cette prise de son. Mais voilà, moi, je vous invite à tendre l'oreille, en fait, hein, sur le monde qui vous entoure. Et on vous essaiera de vous solliciter, en tout cas solliciter la communauté, la société civile, pour justement nous amener des sons et faire cette étude, en fait, affiner cette étude entre relations entre espaces protégés et profusion sonore, richesse sonore, même si là encore il y a une subjectivité, mais en tout cas de prendre conscience qu'il peut y avoir un lien entre cette protection et l'environnement sonore dans lequel on peut se situer. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Nous avons 3 minutes, si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, c'est difficile, hein, si vous levez la main, peut-être que je peux apercevoir ça. Moi, j'avais des questions sur l'application des lois, puisque les lois existent. Il y a des villes qui ont mis en place des radars à son, entre guillemets. On sait que le bruit en ville, c'est une énorme problématique qui a pourtant été dans les hautes instances. Il y a eu des choses qui ont essayé d'être mises en place. Mais y a-t-il une police du bruit ?
Oui, tout à fait. Donc c'est le maire, en fait, hein, qui détient cette police du bruit et qui peut réglementer, justement, ben, le déroulé d'activités nocturnes. Donc c'est pour ça, en général, que les bars doivent fermer à 2 heures, que la friche des ponts ne pouvait pas rester à Limoges longtemps. Vous voyez, bel exemple. Donc là, voilà, on voit aussi un conflit d'usage de l'espace. Et donc l'idée, souvent, de l'autorité de police compétente, donc le maire en l'espèce, c'est d'avoir une conciliation de ces usages-là. Mais donc c'est le maire qui, en fait, va réguler, mais on voit bien que là, il régule dans une logique défensive, en fait, par rapport au son, et non pas protectrice. Alors qu'on pourrait aussi se dire que la préservation des espaces verts en ville pourrait être justifiée par l'ambiance sonore en fait, qu'ils créent. Et que c'est aussi une source d'apaisement, pour le coup.
Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours logique, notamment si on revient sur cette histoire qui est sortie la semaine dernière de cette cour d'école où les enfants sont limités. Donc ça veut dire que le voisinage a gagné sur le fait qu'il y ait donc, eh bien, des enfants qui fassent du bruit dans une cour de récréation. Là, ça semble complètement aberrant.
Complètement.
Comment on peut juger en faveur de ses voisins ?
Ah ben, c'est que déjà, on peut juger les voisins.
Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais j'imagine que c'est les mêmes qui portent plainte contre le coq. Hein,
Oui, non, mais c'est ça. Et en fait, surtout que bon, le concept de l'école, j'imagine qu'elle n'est pas apparue là, quoi, en fait. Mm-hmm. Et que c'est souvent quand c'est des personnes qui ont emménagé à côté de l'école. Donc, normalement, en droit, il y a une espèce de présomption. En fait, si vous avez connaissance des nuisances auxquelles vous allez vous exposer, vous ne pouvez pas véritablement vous en plaindre. Il y a aussi d'autres systèmes qui sont des systèmes d'indemnisation. Par exemple, si on construit à côté de chez vous une usine hyper bruyante, mais qui soi-disant est hyper nécessaire pour fabriquer tel produit, vous serez indemnisé parce que ça baisse par exemple la valeur de votre bien immobilier. Mais là, évidemment, c'est une question de ce qui est le droit en général, c'est de la conciliation ou de la pondération ou de la mise en balance d'intérêts qui sont potentiellement divergents, quoi, très clairement. Et on peut penser que les voisins ont été bien défendus, peut-être moins bien que l'école, voilà, qui est l'État, je ne sais pas, peut-être.
D'accord, très bien. Et j'aurais donc une dernière question. Si l'on prend l'exemple de la déviation du nord de Limoges pour relier la ville de Poitiers, alors que certains États, je crois que c'est notamment l'Écosse, qui a pris la décision de ne plus construire de routes à partir de maintenant, ils n'entretiennent que les routes qui existent et il n'y aura plus jamais de nouvelles routes, ce qui est tellement 2025 par contre. Là.
Voilà.
Alors quand on décide de construire une nouvelle route... alors qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées, il y a énormément d'associations de l'environnement qui amènent des arguments contre la construction de cette nouvelle route. Le fait d'utiliser le sens de Louis, y aura-t-il un impact supplémentaire dans le petit cœur des politiciens qui décident ?
On l'espère, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se projeter dans la perte, en fait, de se projeter dans ce qu'on va perdre si on fait telle chose. Alors évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est toujours à invoquer l'impératif de sécurité routière, la rapidité ou autre. OK, donc ça, ce sont des intérêts matériels, on comprend bien, qui concernent le droit à la vie aussi des personnes, et donc il est important à prendre en compte. Mais de l'autre côté, l'idée, c'est de se projeter, en fait, sur ce qu'on perd, et de prendre conscience que si on perd, en fait, cette ambiance sonore particulière, c'est faux de croire qu'on pourra la recréer ailleurs. Et le problème aujourd'hui, c'est que les décideurs et les porteurs de projets ont trop tendance à dire « Non, non, mais on va impacter ici l'environnement, mais on va compenser. » Vous savez, on bétonne, on imperméabilise une zone, on a enlevé vraiment massivement des arbres, mais en fait, on va en replanter à côté. Et en fait, vous imaginez bien quand même qu'entre avoir des arbres qui ont des dizaines d'années de vie, alors en termes de capacité d'absorption du carbone notamment, mais aussi en termes de qualité et de diversité des sols, ça n'a rien à voir que d'avoir un petit arbuste en fait pendant un bout de temps. Donc c'est aussi quelque chose. J'appelle à votre vigilance sur toutes ces histoires de compensation. Alors c'est toujours mieux que rien puisque avant il y avait rien. Ok, donc on va dire bon c'est déjà pas mal en termes de démarche et c'est un moyen de faire payer en fait les pollueurs ou ceux qui impactent l'environnement. Ok, donc c'est mieux que rien. Mais c'est évidemment, ça n'a rien à voir. C'est pas une compensation. C'est pas une compensation réelle. Et donc là, c'est exactement la même chose. C'est de dire, on va déplacer les batraciens, on va les mettre à côté. Non, mais évidemment que l'ambiance sonore ne se recréera pas si tant est que tous les batraciens retrouvent l'espace ici, en fait, que tout ça est unique et nécessite un respect tout aussi comparable, en fait, que d'autres intérêts, très clairement. Et il y a vraiment cette dimension de dommage irréversible. De dommages irréversibles qu'on doit ici mettre en avant, alors que précisément face à la hausse du trafic routier, peut-être qu'on a d'autres alternatives en fait, très clairement. Alors que quand vous atteignez en fait un espace environnemental, vous l'atteignez quoi, point.
Alors la solution, on terminera.
Il y a une question.
Oui, pardon, j'ai une question, mais je ne vois pas, excuse-moi. Oui,
vas-y. Par rapport aux nuisances sonores, etc.
Oui.
C'est étudié par rapport à l'implantation des éoliennes.
Oui. Alors c'est très intéressant parce que ça c'est tout à fait pris en compte dans l'étude d'impact et là vous voyez c'est le bruit encore en fait qui va être pris en compte parce que alors les éoliennes c'est un grand sujet hein, pour les questions environnementales ou la question de la protection de l'environnement. Les éoliennes sont des énergies renouvelables donc elles contribuent à offrir des alternatives, normalement c'était l'idée, à offrir des alternatives au recours à l'énergie fossile. On sait bien aujourd'hui en fait que ça n'est pas une alternative, mais c'est quelque chose qui vient s'ajouter en fait à l'usage des énergies fossiles, donc ça ne nous a pas fait baisser notre usage des énergies fossiles. Et donc les défenseurs de l'environnement sont, et ça peut apparaître paradoxal, contre le développement des éoliennes, notamment mettant en avant l'idée que ces éoliennes vont pouvoir avoir un impact négatif sur certains oiseaux, et aussi donc on prend en compte l'intérêt des riverains en termes de son. Et donc justement, c'est le bruit à ce moment-là des éoliennes. Donc là, vous voyez comment la chose est complexe, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui normalement est en faveur de l'environnement parce que c'est en faveur de la lutte contre le changement climatique, mais qui en fait augure d'autres tensions. Et donc justement, là, c'est le bruit qui viendrait remettre en cause cet aspect positif ou cet apport positif pour la protection de l'environnement. Mon point de vue sur les éoliennes, il est extrêmement clair. C'est que si les éoliennes permettent de remplacer l'usage des énergies fossiles, bien entendu, dans ce cas-là, elles sont justifiées, ou leurs atteintes potentielles à l'environnement ou les atteintes au voisinage sont justifiées. Si c'est juste pour nous permettre de consommer toujours plus d'énergie, ça ne me paraît pas justifié, en fait.
Eh bien, je pense que ça ne sera pas justifié, vu l'augmentation de la production de pétrole dans les années à venir. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir éclairés sur ce sujet, et en espérant évidemment que vous allez être beaucoup plus attentifs dans les semaines, les mois et les années à venir dans votre entourage sonore. Et puis, rappelons qu'il y a une étude très intéressante qui démontre que le chant des oiseaux a été modifié de par le bruit humain. Les oiseaux chantent pour se reproduire, notamment, et ils ont dû donc modifier leur chant et essayent de chanter de plus en plus fort. Mais malgré tout, il reste encore... voilà. Donc voilà l'une des nombreuses et des milliers de problématiques engendrées donc, et bien, par nous, les humains. Merci beaucoup.